J'appelle depuis Kinshasa. Je suis tout à fait
d'accord. Moi, c'est André du Mouvement Yokata Oriental. Je réfute totalement ce qui
se passe. Moi, c'est Céline de Lubumbashi au Katanga. Je pense qu'on peut, en combinant les deux avis de mes précédents, trouver une solution par rapport à ça.
Merci de nous accepter chez vous, mesdames et messieurs. Une fois de plus, merci de votre fidélité. À parole aux auditeurs, votre magazine d'échange citoyen sur Radio Capi, la fréquence de la paix. Au terme des discussions tenues au sein de la plateforme des confessions religieuses, aucun consensus n'a été trouvé sur les dossiers de quatre candidats présidents à la CENI. Six confessions religieuses trouvent que des griefs relevés contre les deux candidats soit ne sont pas prouvés, soit ne concernent pas directement des candidats eux-mêmes. Selon vous, quel est le profil idéal du prochain candidat président de la CENI? À l'adresse pa@radiocapi.net, rejoignez-nous et appelez-nous au 09 97 06 6330 ou encore au 09 49 69 pour votre intervention en direct. Vous avez également la possibilité d'interagir ensemble avec des internautes sur notre page Facebook ou encore sur www.radiocapi.net. Merci à toute l'équipe qui concourt à la production de cette émission. Hippolyte Kapanga est à la mise en onde et Kiria Ambatia réalise ce programme. Bienvenue à tous.
Parole aux auditeurs, J.R. Lungembo.
Nous avons le réel plaisir d'accueillir dans ces studios Dieudonné Mirimo, que vous connaissez, l'ancien rapporteur de la CENI. Monsieur Dieudonné, bonjour.
Bonjour, Gilles.
Alors, vous êtes en même temps secrétaire général à l'école de formation électorale en Afrique centrale. Vous nous avez honoré de votre présence dans ces studios. Une fois encore, merci. Alors, d'entrée des jeux, y a-t-il des critères pour la désignation d'un candidat à la présidence de la commission électorale?
Je voudrais de prime abord remercier Radio Okapi de m'avoir invité ce jour et surtout de me donner l'opportunité d'éclairer les auditeurs de Radio Okapi, que j'imagine sont très nombreux à travers le territoire national et même à l'extérieur du pays. En ce qui concerne la question que venons de poser hier, la loi organique portant organisation et fonctionnement de la Commission électorale nationale indépendante, qui a été promulgué le 3 juillet 2021, à son article 13, donne le profil d'un membre de la CENI, y compris son président. Et si vous voulez si bien qu'on puisse les énumérer, parce que la loi a précisé, c'est en même temps des valeurs. Il faut d'abord une personnalité indépendante. L'indépendance d'esprit, cela s'entend. Reconnue par ses compétences, les mots sont bien choisis par le législateur. Son intégrité, c'est une valeur. Sa moralité, sa probité et son honnêteté intellectuelle. Voilà les valeurs que doivent réunir tout celui qui se veut être membre de la commission électorale indépendante au regard de la loi qui a été promulguée, comme je l'ai dit, le 3 juillet dernier.
Vous avez parlé de l'intégrité, la moralité, la probité, honnêteté, mais comment évaluer réellement ces valeurs?
Effectivement, c'est là que le problème doit se poser, mais ceux qui sont chargés d'identifier ou de choisir ces candidats, sûrement ils doivent avoir un critérium. Comment nous procédons pour savoir que tel est une personnalité indépendante? Il le faut en interne. Et sur base de ces critères qu'ils vont eux-mêmes établir, ils vont pouvoir dire, voilà, telle personne réunie, on n'aura pas quelqu'un qui va réunir à 100% toutes ces valeurs, c'est impossible, parce que nous n'allons pas trouver un ange sur terre.
Tout à fait.
C'est parmi des hommes que nous avons, des valeurs, et il y en a. En tout cas, je peux vous assurer qu'il y en a en RDC. Après les trois élections que nous avons organisées, nous sommes au troisième cycle. La RDC a l'avantage d'avoir, en tout cas, un nombre assez important d'experts. Et donc, il est possible de pouvoir les aligner, les interroger, les interviewer, et regarder leur parcours, parce que de toutes les manières, ça ne se cache pas. Mmh. On sait qui est qui fait quoi, et quand quelqu'un est voleur, on sait facilement l'identifier dans le quartier ou dans la communauté.
Tout à fait.
Et donc, à mon avis, ça ne serait pas difficile d'identifier ces personnes-là, si la volonté est là.
Donc, malgré que ce soit des critères aléatoires, mais il y a toujours, tout de même, cette assurance de pouvoir identifier ces personnes, les connaissant, parce que ce ne sont pas des anges, nous vivons avec eux. Mais il y a un autre critère ou un autre élément qui vient s'inviter, on ne sait pas, à cet article ou à cette loi, c'est le tribalisme ou l'appartenance géopolitique. Je ne sais pas comment l'appeler. Aujourd'hui, on voit les confessions religieuses se divisent en ce qui concerne la question d'appartenance à telle zone ou à telle partie du pays pour faire l'équilibre géopolitique.
Il est vrai que le législateur, dans la loi, a indiqué que aucune province ne peut être représentée par plus d'un membre. C'est très bien. Mais je voudrais ici relever que le monde d'experts électoraux est assez fermé. On se connaît. Hein, on n'est pas assez nombreux, mmh. On se connaît. Je peux vous dire, en tout cas avec la main sur mon cœur, qu'il y a des provinces qui n'ont pas un seul expert électoral. Je dis bien expert. Et donc, la question que vous venez de poser sur le tribalisme, je crois, n'a pas de place dans les élections. On parle d'une personnalité indépendante, on n'a pas parlé qu'il ne devait pas être de telle ou telle province. À partir du moment que la personne réunit les conditions, les valeurs qui ont été édictées par la loi, on ne devrait plus, si tout est clair, hein, il n'y a pas des accointances, mm-hmm. Oui, c'est cela justement, on devrait pas s'acharner ou du moins s'attarder sur ces critères-là qui divisent le pays et alors, nous avons besoin de l'unité nationale.
Alors vous en avez l'expérience parce que c'est vrai, les discussions et qui ne trouvent pas parfois les accords entre les confessions religieuses, comment les commentez-vous? Parce que ça ne date pas d'aujourd'hui, ils ne se sont pas mis d'accord avec Malou Malou, Père son âme, ils ne se sont pas mis d'accord sur la désignation de Ngoï Moulunda, Nanga a posé problème, et aujourd'hui c'était d'abord Rosa Malonda qui posait problème, mais actuellement, finalement, ils ne se sont pas mis. Il n'y a toujours pas un consensus autour de... Est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, le manque de consensus, c'est ce qui fait qu'à chaque fois, les trois cycles électoraux ont été émaillés de toujours des difficultés?
Je voudrais de prime abord dire que le manque, effectivement, de consensus, c'est un ingrédient pour préparer la violence électorale. Il faut à tout prix chercher à rassurer toutes les parties prenantes. Si les parties prenantes ne sont pas rassurées, si les acteurs, les gestionnaires des élections, donc les membres de la CENI et l'OGE elle-même, c'est-à-dire la commission électorale pour ce qui est de la RDC, ne rassurent pas les parties prenantes, à ce moment-là, on prépare déjà les contestations et donc les violences électorales. Revenant sur la question que vous venez de poser, je suis mal placé pour parler du fonctionnement des confessions religieuses, mais tout ce que je sais, c'est qu'ils ont mis en place une charte depuis 30 ans aujourd'hui, parce que c'était en juillet 1991, et au départ, il y avait 5 confessions religieuses à la création de cette plateforme, les catholiques, les protestants, les kimbanguistes, les musulmans. Et plus tard, en 2002, se sont ajoutées l'église de réveil et les églises non dénominationnelles. Et en 2005, l'armée du salut. Ils ont leur charte. Et si nous lisons l'article 17, cet article indique clairement comment s'ils doivent décider comment ça doit se passer. Premièrement, ils privilégient le consensus. Deuxièmement, on doit aller au vote et on décrit comment le vote doit se passer. Et comme ils sont très organisés, en tout cas, que ce soit par consensus ou par vote, on connaît la personne qualifiée pour transmettre les PV à qui de droit. C'est ce que nous avons lu dans la charte qui régit les confessions religieuses. Bon, maintenant, s'ils peuvent avoir quelques difficultés au niveau de fonctionnement, à mon avis, la recommandation, c'est d'appliquer la charte qui les régisse depuis plus de 30 ans. Quand ils ont élaboré cette charte, en tout cas, il n'y avait pas d'élection en vue. C'était, c'est vrai, pendant la période de la conférence nationale souveraine. Bon, en tout cas, on ne parlait pas d'élection comme c'est le cas aujourd'hui. Et donc, si ils ont la possibilité aussi de l'amender, de l'améliorer, pour que on ne puisse pas vivre les mêmes scènes tous les jours.
Tout à fait.
Je rappelle que le cycle électoral est composé de 3 phases et de 8 périodes. La 8e période du cycle électoral, c'est dans cette période-là qu'on organise les audits et les évaluations. On audite et on vérifie ce qui s'est passé pendant les élections, les opérations passées, et on envisage les corrections, les réformes. Alors, et aussi, j'imagine, ils pouvaient se mettre à cet exercice-là. Pendant 2-3 fois, on n'a pas bien organisé les choses. Il faut qu'on améliore telle disposition pour nous éviter des conflits de tous les jours. Parce que, comme je l'ai dit, c'est des acteurs très importants. Vous savez, je n'ai pas les statistiques, mais je sais que les églises toutes réunies, en tout cas, plus de 80% des Congolais se retrouvent, soit catholiques, protestants, musulmans,
oui, ainsi de suite.
Donc, c'est des acteurs à ne pas négliger. Il faudrait donc qu'ils puissent eux-mêmes évaluer leur propre charte et voir s'il y a des améliorations à faire au regard, en tirant les leçons de tout ce qui s'est passé.
Voilà. Alors, Dieudonné Mirimo, le temps qu'on ouvre les standards et d'accueillir les auditeurs qui ont souhaité, en tout cas, ils ont désiré participer dans cette émission. Ils sont nombreux, plus de 10 000 à avoir été touchés par ces sujets sur notre page Facebook. 4 000 parmi eux, en tout cas, ont émis le vœu de pouvoir intervenir, mais on ne saura pas prendre tout le monde. On va sélectionner. Je crois que, comme je l'ai dit, il y a l'équipe qui avait la charge du filtrage. Nous propose Willy qui est à Goma, Norbert et Kisangani et François à Mweka. 081 890 63 30 ou encore le 081 890 49 69 pour votre intervention en direct.
Allô? Allô? Allô?
C'est parce que Radio Capi unit le Congo que vous êtes concerné par cette émission.
Bonjour monsieur le journaliste, bonjour.
En tout cas, j'étais très ravi par rapport
Je suis vraiment ravi par la pertinence de
Habitants de toutes les provinces, parole aux auditeurs et votre émission. Vous donnez votre avis sur les grands thèmes de l'actualité ou les petits tracas de la vie de tous les jours. À vous aussi de proposer des solutions.
Chacun doit avoir la conscience
qu'il n'a pas de travail.
Les intouchables, dans ces pays, n'existent pas.
Suivez cette émission chaque jour de 13h à 14h, heure de Kinshasa. Parole aux auditeurs, une émission à réécouter du lundi au vendredi à 21h.
Merci encore de votre fidélité à Radio Okapi. Si vous nous rejoignez, bienvenue dans Parole aux auditeurs, votre cadre d'échange citoyen. Willy, vous êtes à Goma. Bonne arrivée. Willy, vous êtes avec nous? Alors, Norbert, vous êtes à Kisangani. Norbert, bonjour.
Oui, bonjour.
Vous avez la parole. Quelle est votre contribution?
Bon, par rapport à moi, je crois que l'invité a parlé que dans le président de la CENI doit avoir la personnalité indépendante. Mais j'ai une inquiétude par rapport à ça parce que nous avons suivi un professeur qui a dit que la CENI, c'est une institution d'abord au droit politique. Mais je ne sais pas comment cette personnalité indépendante peut y avoir lié. Mais par rapport à ce que moi je voudrais suggérer par rapport à l'auteur Lassuel, il a parlé que non. Les chefs, je crois que non, les présidents de la CENI, ils doivent d'abord être riches. Parce que par rapport à la richesse, ils ne peuvent pas envier les politiques. Parce que vous allez voir que à partir de la richesse, on est toujours influencé par les hommes politiques. Ils doivent avoir aussi le savoir-faire, agir positivement. Et pour y arriver à cela, moi j'ai proposé des recettes telles que, une fois, le président arrive un peu à aborder les problèmes, doit d'abord clarifier les problèmes, appréhender les diverses données, consulter l'opinion et présenter en termes de moralité les décisions finales prises. Or, dans notre pays, vous allez voir que non, les juges électoraux n'est pas dans les faces pour vous donner un peu les résultats tels qu'attendus par le peuple. Vous allez voir que non, il y a toujours les résultats qui sont émaillés par des violences. C'est pourquoi, d'après moi, je trouve vraiment que non, on ne peut pas repartir de la nomination quand j'ai attendu par ces derniers.
Alors, est-ce que vous avez un commentaire sur les discussions des confessions religieuses qui n'ont toujours pas d'accord, ils n'ont toujours pas trouvé un consensus?
Oui, si les confessions religieuses ne sont pas d'accord, parce que vous devez savoir que je crois, si je prends par exemple l'Église catholique ainsi que l'autre, que j'ai perdu le nom, vous allez voir que non. L'Église catholique, d'abord, c'est le dernier rempart de la société. S'ils arrivent, on n'est pas très d'accord. C'est comme s'il y a une armée sous rouge. Et c'est ce qu'on avait voulu, que l'Église catholique puisse clarifier dans ce cas, malheureusement. Bon, l'Église dit
à l'opinion publique. Voilà, on a des petits soucis avec vous, Norbert. Je crois qu'on est en train petit à petit de vous perdre là. Est-ce que vous pouvez changer votre position là où vous êtes?
Hein?
Voilà, on ne saura pas vous garder le plus longtemps possible parce que là, c'est vraiment désagréable. Merci beaucoup Norbert d'avoir appelé de Kisangani. François, vous êtes à Mweka, là nous sommes au Kasaï. Vous avez la parole, François.
Oui, merci bien. D'abord, salut à Madame Jocelyne, salut à Pierrot, mais je pense que c'est lui, Pierrot, qui est au Biko.
C'est bien J.R. Lungembolo Abung Anji.
Ah, J.R. Lungembolo Abung Anji. Bonjour, vous voyez tous deux, ça semble exactement. Merci bien. Vous savez, la CENI étant une institution d'appui à la démocratie, le CENSA comme le CESAC, elle doit être gérée par un expert à la matière électorale, doué de la probité morale, apolitiste, indépendant et ayant un passé non douté, qui ne se laisse pas voir dans les couloirs des politiques ou qui doit résister aux ordres politiques étrangers. Un candidat qui doit travailler en étroite collaboration avec ses collaborateurs du bureau et de la plénière. Un homme qui doit éviter de publier des résultats chaotiques pouvant créer l'impasse sans nom en RDC. Mais laissez-moi aussi vous dire, monsieur Egeo Lungé, je pense que la radio au capitaine pourra aussi vérifier l'information. Bon, plutôt sur l'occasion pour saluer Jodéné Mirindo qui est avec vous et l'invité. Vous savez, j'ai lu quelque part, monsieur Egeo Lungé, dans un communiqué parvenu à K-Info, Nadège Bouquet, délégué général de la transparence internationale, une ONG allemande ayant pour principale vocation de lutter contre la corruption des gouvernements et institutions gouvernementales mondiaux. Mmh. Selon cette organisation, des enquêtes préliminaires indiquent que des conseillers du président de la République sont activement à la manœuvre dans ces menaces, pression, intimidation, mais également immiscés dans les processus en faveur d'un candidat. C'est ce qui n'est pas monsieur Gilles Lungemba. Et d'ailleurs, toujours dans cette même ordre d'idée.
Oui, mais ce sont des informations à prendre avec beaucoup de pincettes, parce que c'est une analyse personnelle qui n'est pas prouvée, parce qu'on n'a pas vu main dans les sacs ces personnalités que vous citez être impliquées dans le trafic d'influence en faveur d'un candidat.
Ce sont des enquêtes menées par une ONG internationale. Mmh. Et c'est pourquoi moi j'interpelle aussi la radio Capi de vérifier si des informations. Si ils s'en veulent que ce sont des informations justes, ça laisse à désirer. Nous ne voulons pas que les gens disent ça. Parce que cette ONG continue pour dire qu'il y a, dans les couloirs, il y a un montant de 75 000 dollars qui circulent. Par exemple, 5 confessions religieuses ont été déjà achetées dans ces sens-là, où chacun a bénéficié de 75 000 dollars. En tout cas, monsieur Jembo, nous, en tant que population, nous ne voulons pas que notre pays puisse encore passer dans des chaos, dans des chaos électoraux. Nous voulons un processus électoral
crédible, apaisé. Merci beaucoup, François, d'avoir appelé de Mweka. Alors, Willy, je crois que la ligne s'est améliorée. Willy, vous êtes avec nous, Willy?
Oui, je suis avec vous.
Vous êtes à Goma, Willy. Comment réagissez-vous?
Oui. Moi, c'est Willy depuis la ville de Goma. Par rapport à l'émission Parole aux auditeurs sur Radio Capi.
Oui, vous avez la parole. Quelle est votre position par rapport à cette question de la CENI qui divise, en tout cas, il n'y a pas de consensus entre les confessions religieuses pour désigner le président de la CENI?
Bon, ici, au niveau de la ville de Goma, bon, d'abord, nous nous aimerions par le fait que les deux confessions n'ont pas trouvé de consensus. Et cela prouve en suffisance que les élections prochaines risquent de devenir très chaotiques. C'est pourquoi nous demanderons à ces institutions-là vraiment de chercher un candidat qui répond aux critères tels que la loi ou son règlement régissant le mode d'organisation de la CENI puisse totalement être très représentatif au niveau des qui sera bénéfique, soit au niveau de la population. Parce que, à l'heure où je vous parle, je constate qu'il y a une main noire qui commence maintenant à favoriser, par exemple, certains candidats, soit de leur obédience, mais voilà au niveau de la confession. C'est pour cela, de notre part, nous pouvons demander à ce qu'il y ait une consensus, parce que les élections à l'air de faire constituent un facteur de paix et de stabilité au niveau des institutions au niveau national. Donc, nous aimerions à ce que les dirigeants
des églises
disputent les postes répondent vraiment convenablement aux attentes de la base.
Merci, merci beaucoup Willy. Alors on va terminer cette première série avec vous Amos. Amos, vous nous avez rejoint, vous êtes à Bukavu. Bonjour et bienvenue dans Parole aux auditeurs.
Bonjour JR, bonjour à tous les auditeurs de la radio Capi, bonjour à l'invité.
Quelle analyse faites-vous par rapport à cette question qui divise en tout cas plus d'un au niveau des confessions religieuses sur la désignation de l'homme qui doit piloter et qui doit succéder à Corneille Nangaa ou peut-être les débats qui s'invitent actuellement au niveau du Parlement?
Tout à fait. Au fait, par rapport à la cacophonie qui règne actuellement pour ce qui est de la désignation du président de la CENI par les confessions religieuses, le peuple constate que apparemment toutes les élections que nous avons connues depuis 2006, le vote ou le choix du souverain primaire n'a jamais été respecté pour ce qui est de la présidence de la République, députés nationaux et provinciaux. Parce que si du moins on sait qu'est-ce que le peuple qui doit élire ses représentants, respecter le choix qui a été fait par le peuple, il n'y aurait pas toute cette cacophonie GL. Dédé, nous sommes en train de constater que vraiment nos pasteurs nous ont totalement causé honte. Ce sont eux qui nous prêchent la parole, ce sont eux qui nous enseignent l'honnêteté, ce sont eux qui nous enseignent la transparence. Mais constatant ce qu'ils ont fait, il y a l'un des auditeurs qui venait de parler de la corruption qu'on aurait signalée au niveau de certaines confessions religieuses. On va même à dire qu'ils auraient reçu un prix de 75 $ chacun. Ça, c'est déjà très grave pour notre pays. Dédé, en constatant comment le pasteur Dodo Kamba, qui soutient jusqu'à la mort du Christ, Denis Kazadi, comment il est arrivé à la tête de l'église de
Vous voulez parler de Denis Kadima?
Quoi?
Vous voulez parler de Denis Kadima?
Oui. Qui est soutenu par Dodo Kamba jusque-là. Et on sait comment Dodo Kamba est arrivé
Amos,
à la tête de l'église de Réveil.
Oui, Amos.
Oui, Gilles.
Mais vous connaissez bien comment fonctionne la charte qui réunit toutes ces confessions religieuses. Et finalement, son article 17, qui parle même de mode de désignation, soit par consensus,
oui,
ou soit par vote.
Et
les points de vue de...
Article 8, 16 et 17.
Oui.
Mais... Article 8, 16 et 17.
Mais
si j'essaie de voir, tout en étant d'accord avec ce que vous voulez dire pour ceux qui, ce qui est dit dans...
Non, mais libre à lui, parce que nous, on ne sait pas si lui le soutient.
Mais nous n'allons pas comparer soit l'église des rêves à l'église catholique ou à l'FCC.
Il n'y a pas plus grande église que ça, donc ils sont tous dans un...
Il faut aussi tenir compte de ça, parce que les gens sont en train de confondre consensus et compromis. Et c'est très grave.
Consensus et compromis. Donc vous estimez qu'il y a une confusion.
Oui, j'y ai.
Vous estimez qu'il y a une nette différence entre consensus et compromis.
Tout à fait. Il y a une nette différence. Et il fallait qu'on tienne compte de tout ça. Et d'ailleurs, vous vous souvenez qu'avec Rossar Malonda, le chef de l'État avait refusé qu'il ne devait pas signer le document parce que l'Église catholique et l'FCC se sont opposés. On attend encore voir si du moins le président de la République va se comporter de la même manière. Moi je pense que si du moins on veut que nous ayons des élections libres, transparentes, démocratiques et apaisées, qu'on écarte d'abord les délais qui causent problème et qu'on revienne à la case de départ.
Voilà. Alors mais là finalement...
Oui,
allez-y, chutez rapidement.
Ok, moi je suis en train de dire qu'on écarte les dés qui causent déjà problème et qu'on revienne à la case du départ. Mais toutefois, on est en train de constater qu'apparemment le régime serait derrière cette carte juste pour établir. on ne sait pas comprendre qu'on nous dise en 2023 que non, il n'y a pas eu élection parce que il y a eu retard avec la CENI.
Voilà.
Et c'est déjà un problème au moment où le peuple veut aller aux élections
en 2023.
Pour se choisir des dirigeants responsables.
Merci beaucoup, Amos, d'avoir appelé et vous vous invitez qui est le retard dans les processus électoraux à cause de cette affaire de consensus non trouvé. Qui est différent d'ailleurs du compromis, hein, selon vous. Merci beaucoup, Amos. Alors, on va terminer cette série avec vous, Christian Politassi. Non, bah alors, on vous garde encore en ligne. Il est temps de rappeler à ceux qui viennent à peine de nous rejoindre, qui peuvent également participer à cette émission en composant les 081-890-6330 ou encore les 081-890-4969 pour votre intervention directe.
Parole aux auditeurs.
Voilà, nous revenons dans ce studio avec vous, Dieudonné Mirimo. Vous avez suivi cette première série. En tout cas, les points de vue sont partagés. Hein. Il y a d'autres qui estiment que voilà, nous entrons déjà dans une phase où on va accuser un retard dans le processus électoral si jamais le consensus n'est pas trouvé aujourd'hui. Il y a d'autres, par contre, qui estiment qu'il faut totalement écarter les deux qui posent problème, en tout cas qui sont restés, qui ont donné du fil à retordre aux grandes confessions religieuses, notamment les catholiques et les protestants. Alors, comment réagissez-vous, Monsieur Dieudonné?
Monsieur Amos a parlé du non-respect du choix du peuple congolais depuis les élections de 2006, 2011 et 2018. Mais pour arriver au respect du choix du peuple, il faut qu'il y ait la confiance dans l'institution qui organise les élections, à travers les membres. Voilà pourquoi nous disons que il faut qu'on applique cette disposition de l'article 13 de la loi pour qu'on trouve des personnalités, en tout cas je vous ai dit qu'il y en a, qui peuvent plus ou moins mettre tout le monde d'accord afin de pouvoir organiser des élections apaisées, libres, démocratique et transparente. Nous sommes au troisième cycle électoral. Nous devrions tirer les leçons du passé et ne pas répéter la même chose. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, on parle du retard. Effectivement, vous le savez très bien, J.R., que c'est depuis 2 ans que le mandat des membres de l'actuelle CENI a expiré. On aurait pu mettre en place la commission. Il se serait déjà mis au travail. Mais on vient de perdre 2 ans. En tout cas, 2 ans, c'est beaucoup. Et si nous considérons les tâches à accomplir jusqu'au jour du scrutin, à partir d'aujourd'hui, ce que nous appelons chemin critique, il nous faut plus ou moins 800 jours. En considérant que...
On essaie d'aller au-delà même de 2020.
En considérant que on va faire la mise à jour du fichier électoral. Mais si on doit procéder au recensement de la population... Rassurez-vous que le glissement est déjà là. Et aujourd'hui, si nous faisons les calculs, en tout cas, il nous reste autour de 800 jours. Donc, si nous n'arrivons pas à balayer les obstacles qui se dressent sur notre chemin, et je peux les citer au nombre de 4, 1, c'est cette mise en place de la CENI qui traîne encore. Parce que tant qu'on n'a pas encore fait la remise reprise, il n'y a pas une nouvelle équipe qui va travailler. Deuxièmement, il faut mettre à la disposition de cette CENI le budget conséquent pour pouvoir démarrer les opérations. Troisièmement, recensement ou pas recensement, il faut que ça soit clair, comme je vous ai dit. Si c'est le recensement, en tout cas, je ne pense pas que dans les 800 jours qui nous restent, on saura organiser les élections. Quatrièmement, et c'est aussi important, il faudrait que, on en a parlé, la révision de la loi électorale. Nous connaissons toute la procédure, les étapes pour réviser, adopter jusqu'à la promulgation d'une loi. Or, à la date d'aujourd'hui, elle n'est pas encore, le débat n'est pas encore engagé. Donc voilà pour moi les 4 obstacles qui peuvent nous conduire vers le glissement. Mais dans tout cela, s'il y a la volonté politique, il est possible, encore une fois, de tenir les élections dans les délais constitutionnels. Et quelles élections le peuple congolais, j'imagine, attend de tous ses voeux.
Oui, mais il y a un auditeur qui évoquait tout à l'heure les questions de moyens financiers à posséder par un candidat. Et ça ferait de lui une personnalité indépendante.
Je pense que je peux pas
dire quelqu'un va à la CENI sans moyens financiers et pas avec une vie normale, hein, en tout cas avec ses propres moyens, il sera seulement influencé à tout moment. Donc on peut dire que vous qui êtes passé par là, les problèmes s'est posé parce que vous n'aviez pas des moyens à l'époque.
Je peux donner aux Congolais, j'espère qu'ils ont déjà fait cet exercice, de comparer les élections de 2006 à celles de 2011, celles de 2011 à celles de 2018, et ils peuvent bien tirer les leçons. La question d'argent, être riche, je pense que ce n'est pas un critère. Si quelqu'un est intègre, il peut être riche ou pauvre, mais il est intègre. C'est une valeur. Ça ne se justifie pas par avoir l'argent ou pas. Mmh. Il faut avoir cette valeur-là, et je crois que ça ne s'acquiert pas en un jour. Hein? Et c'est ça que nous devons cultiver. Mmh. Donc, ce n'est pas l'argent qui détermine la personnalité de quelqu'un, qu'il est intègre, indépendant, honnête, et il a l'éthique. Pas du tout. Parce que je peux vous dire que en 2006, la CENI était composée de 21 membres. Mmh. 3 de la société civile, 5 de la majorité et 13 de l'opposition. Mais pourquoi on a réussi à je peux dire que avec fausse modestie, que c'est parmi quand même les meilleures élections parmi les deux autres qui ont été réalisées après
ça,
nous.
Ça, c'est vous qui l'avez dit.
Oui, je l'ai dit et je vais demander aux auditeurs.
Parce qu'à l'époque, on reprochait à votre équipe que Malou Malou était soutenu par l'ancien régime de Kabila et Bassengezi était également l'homme de Kabila. Vous-même, donc, on n'en parle pas déjà, les acteurs principaux de cet appareil électoral étaient constitués que des hommes du régime.
Je ne veux pas perdre les auditeurs dans ce débat. Et c'est pour ça que j'ai dit à eux d'apprécier, comparer les élections de 2006, de 2011 et de 2018 et de tirer les conclusions. C'est vrai qu'il y a eu des faiblesses, mais c'est pour ça que j'ai dit à chaque fois, il faut évaluer pour amorcer les réformes. Mmh. Donc là, nous projetons pour les élections de 2023, et comme j'ai dit et je le répète, nous devons tirer les leçons de tout ce qui n'a pas marché, parce qu'on n'a pas besoin de la violence, on n'a pas besoin de contestation. Là, on est en train de faire les lits de contestation. Maintenant, après de 800 jours des élections, les gens commencent déjà à contester. Il faut déjà qu'on mette chacun de l'eau dans son vin.
Mais ce qui étonne plus d'un, M. Mérimont, on se rend compte que finalement, après 3 cycles électoraux, on a quand même acquis certaines expertises même. Parce qu'aujourd'hui, cette expertise est utilisée en Afrique et également ailleurs. Vous-même, vous êtes aujourd'hui secrétaire général à l'école de formation électorale. Et vous connaissez des experts électoraux. Pourquoi le travail ne peut-il pas être fait en amont par vous-même en détectant, bon voilà, telle équipe ait fait mandat. Nous nous préparons déjà pour les autres et proposer à la société civile, parce que vous êtes membre de la société civile également, pour éviter ces genres de contestations, c'est-à-dire apporter déjà des candidats qui répondent à ces critères, à votre niveau.
Le travail est fait. Nous avons la base des données de tous les experts, en tout cas, comme vous le dites, si bien.
Qui répondent aux critères.
Oui, il y en a. Mais, bon, quand il y a la dose politique qui interfère dans ça...
Et pourquoi les deux candidats ici, les derniers, qui posent problème?
Donc...
Est-ce que vous pouvez, tant qu'expert, faire des analyses? Pourquoi ça poserait problème? Je ne sais pas si c'est les deux noms qui ont été transmis au niveau du Parlement. On parle de Denis Kadima et de Sapo. Alors, pourquoi les deux-là? Il y a un auditeur qui a dit, carrément, il faut les écarter pour trouver d'autres personnes.
Non, moi, j'ai menti au communiqué des chefs de confession religieuse. Dans leur communiqué, ils ont évoqué la pression, les intimidations et tout. Qu'ils ont eux-mêmes dénoncé et le communiqué est signé par les 8 chefs de confession religieuse. Deuxièmement, dans leur rapport qu'ils ont envoyé au bureau de l'Assemblée nationale, ils ont indiqué clairement qu'ils n'ont pas trouvé de consensus. De ces eux, comme j'ai dit au départ, ils se fixent des critériums pour pouvoir sélectionner les candidats.
Alors, parce que vous parlez de cette charte-là, je crois qu'il y a quand même un juriste qui nous a rejoint dans les débats, et Hippolyte va nous aider à apprendre le maître Willy Wenga. Maître Willy Wenga, vous êtes avec nous?
J.R. Lungembo, je suis en ligne.
Voilà, mais il y a cette question de la charte de la plateforme des confessions religieuses qui pose problème et qui prête à confusion aujourd'hui. Personne ne sait comprendre comment, à chaque cycle électoral, il y a toujours des confusions, les confessions religieuses qui n'arrivent pas au consensus. Est-ce que vous pouvez nous éclairer là-dessus? Que dit exactement cette charte?
La plus grande maladie des Congolais, c'est de ne pas respecter leurs propres textes. J.R., je dois vous dire que la charte de confession religieuse, la plateforme de confession religieuse, existe bel et bien depuis 1991, comme je l'avais dit encore sur les ondes d'une radio, la Radio Top Congo. C'est que cette charte existe depuis 91, oui. Mm-hmm. À l'époque de conférence nationale souveraine. Et ça n'a jamais posé beaucoup de problèmes dès lors que les confessions religieuses ont toujours trouvé des compromis autour des questions essentielles de la République. Mais cette fois-ci, on ne comprend pas pourquoi ça pose problème. Est-ce que les confessions religieuses de chacune aient un agenda caché ou quoi? Mais sinon, leur charte est claire. Ils avaient pris des engagements entre eux de traiter les questions de manière consensuelle comme mode de gestion ou de désignation ou de prise de décision pour certaines questions importantes. Il y a des vertus qui se sont convenus de mettre sur pied. Ils ont un objectif précis, ils ont des modes de travail précis, mais cette fois-ci, il y a du sable dans le riz, on ne sait pas, ça se pose à quel niveau. Ça doit être, au-delà du texte, un problème personnel pour chaque confession religieuse, mieux une situation qui concernerait les agendas cachés.
Alors, parce qu'en termes clairs, qui est censé transmettre le PV au niveau du Parlement?
Avant de parler des procès-verbaux, Monsieur J.R. Lungembo, il faut d'abord parler de quel PV il faut transmettre. Mm-hmm. C'est-à-dire que lorsque la charte souligne que les décisions doivent être prises par voie de consensus, ce n'est que lorsqu'il n'y a pas de consensus que les confessions religieuses peuvent passer au vote. Et ce vote-là, c'est une confession, une voix. Il n'y a pas une confession qui a plus de voix que l'autre. Cependant, il faut reconnaître, J.R., que de plus en plus, nos associations religieuses ou non religieuses commencent à avoir les comportements des États. Vous savez qu'à l'ONU, par exemple, chaque État a une voix, mais lorsque des grands États ne sont pas d'accord avec une résolution,
ça pèse.
Le droit de veto, oui. Parce que ces résolutions n'entrent pas en vigueur. Et apparemment, c'est ce comportement-là que
l'Église catholique et l'Église protestante, qui estiment être des grandes églises.
Voilà, donc l'Église catholique et l'Église protestante, quand bien même qu'elles reconnaissent qu'elles sont toutes des confessions religieuses, mais quelque part, dans leur manière de voir les choses, elles se disent, je suis sûr et certain, que les autres confessions religieuses peut-être ne les sont que de noms, ou pour certaines provinces, ou pour certains espaces, mais eux, elles, catholiques et protestantes de l'ECC, occuperaient l'étendue de la République et que leur voix devait être entendue dès lors que eux couvrent toute l'étendue de la République. Donc, elles sont à elles seules une grande force de la société civile et religieuse. Mais le texte n'a pas prévu que les grandes églises ou les grandes confessions.
Donc la charte n'a pas prévu le droit de veto.
Consensus et en cas de vote, s'ils sont à 8, c'est la question de la majorité de ceux-là qui vont voter pour ou contre une question quelconque. Et à ce moment-là, dès qu'il y a consensus ou vote, les procès-verbaux sont dressés et c'est le président de la plateforme qui transmet les procès-verbaux au bureau de l'Assemblée nationale.
Mais maintenant, ça prête à confusion. Le président, nous l'avons suivi, le président, si ma mémoire est très bonne, c'est Monseigneur Outembi, et qui a même dit que les travaux se sont clôturés et les PV sont transmis. Nous réservons la primeur à l'Assemblée nationale. Mais de quelle primeur parlait-il? On ne sait pas. Dès lors que l'autre camp dit qu'il n'y a pas eu consensus, et le président n'a pas pu passer au deuxième mode, c'est-à-dire le vote. Il n'a pas autorisé le vote.
Non, le président n'a pas autorisé ou a autorisé. Je ne suis pas dans leur cuisine où ils préparaient leur nourriture. Mais ce que je dois avouer et en droit, parce que vous me connaissez très bien, moi je suis très attaché à la loi et à l'esprit de la loi. Or, nous savons que les conventions légalement formées entre parties tiennent à force de loi entre les parties. Aujourd'hui, la charte de plateforme des confessions religieuses constitue une loi pour elle. Et partant, lorsqu'il n'y a pas consensus, cette charte parle de vote. Et lorsqu'il n'y a pas eu vote et il n'y a pas eu consensus, donc aucune décision n'a été prise. Lorsqu'il n'y a pas eu consensus et il y a eu vote, là, ça respecte la loi, encore que ce vote-là doit être transparent et doit répondre aux critères religieux d'une élection saine. Et il faut reconnaître que le président ne peut pas transmettre les procès-verbaux au motif qu'il a eu consensus et il n'y en a pas eu, et quand même qu'il ne serait pas d'accord avec l'opposition, avec le vote, dès lors que les confessions religieuses, quoique majoritaires en nombre, mais minoritaires en réalité sur terrain, seraient la majorité, même si le président n'est pas d'accord avec ça, je pense qu'il lui serait demandé plus de mener une diplomatie en interne pour trouver le consensus, afin de déposer des procès verbaux d'irréprochables que déposer des procès verbaux pour un consensus qui n'a pas lieu. Et aussi pour le vote, c'est à l'issue du vote qu'on doit aussi déposer les procès verbaux. Les procès verbaux ne peuvent que dire de quelle manière, comment on est arrivé au vote, comment le consensus a échoué, et il y a eu combien de candidats, comment a été le mode de vote, à bulletin secret ou à main levée, comment ça s'est déroulé, quel a été le suffrage exprimé, et quel devait être le quorum pour cette élection-là. Tout cela doit être mentionné dans le procès verbal pour éviter toute cacophonie.
Voilà, Maître Willy Ewenga, merci d'avoir accepté d'apporter cet éclairage dans cette émission. À très bientôt, Maître Willy. Voilà, on poursuit avec vous, Christian. Christian Politassi, vous êtes avec nous à Kinshasa.
Bonjour, Jerry. Bonjour, l'invité.
Quelle est votre contribution, Christian?
Oui, moi je crois qu'au stade actuel, hier, au regard de la suspicion qui a eu lieu de domicile au sein des confessions religieuses, mais aussi au sein de la classe politique, en tout cas, même la présence du Saint-Esprit à la tête de la CENI aura du mal à se faire accepter. Parce que sa neutralité déjà fera l'objet justement ou sera remise en cause. Et au-delà de ça, les élections par lui organisées seront contestées. Et donc aujourd'hui, au regard de ce qui vient d'être dit par Maître Wenga, je me dis, mais est-ce que pourrions-nous pas aujourd'hui penser justement à dépolitiser les églises? Parce qu'aujourd'hui...
À dépolitiser les églises.
Que, évidemment, parce qu'aujourd'hui, on se dit, mais est-ce que les églises ne sont-elles pas politisées jusqu'à tel point que la charte est claire, l'article 17 est clair, mais aujourd'hui, du fait qu'il n'y a pas eu consensus, il devrait peut-être aller aux élections. Mais il n'y a pas eu élection. Bon, les six autres ont trouvé leur candidat. Ben, aujourd'hui, les PV seront débattus à l'Assemblée nationale. Nous ne savons pas.
Mais de quel PV? C'est comme l'a dit Maître Willy. Qui a transmis ces PV? Dès lors qu'il n'y a pas eu consensus, non plus il y a eu vote, ben, les PV ne peuvent pas exister.
Évidemment, de quel PV? voilà pourquoi nous disons que vraiment il faudrait dépolitiser la CENI, parce que les confessions religieuses, parce qu'aujourd'hui ces confessions se comportent comme si elles étaient des partis politiques. Vous n'êtes pas sans savoir qu'aujourd'hui nos pères spirituels eux-mêmes s'acquisent mutuellement, les uns et les uns
accusent de corruption, d'autres
de corrompus, et les autres cherchent à se défendre en demandant des preuves. Finalement, c'est un jeu de ping-pong, nous ne savons plus
à quel sens vous jouez. Merci beaucoup.
Mais toutefois, nous demanderons à celui qui aura la charge de gérer la CENI de mettre en avant-plan l'intérêt général et non de tirer les intérêts privés égoïstes.
Voilà, merci beaucoup Christian. Alors Maître Edmond, vous nous avez également rejoint. Bonjour Maître Edmond, vous êtes en Bandaka. Edmond? Voilà, on a des petits soucis avec la ligne de Maître Edmond. Je crois qu'on va poursuivre. Voilà, donc on va... Benjamin? Voilà, désolé. Benjamin non plus n'est plus en ligne. Alors, on revient à vous, Dieudonné Mirimont, ancien rapporteur de la CENI et aujourd'hui secrétaire général à l'école des formations électorales en Afrique centrale. Vous venez de suivre, cette deuxième série avec Maître Willy Wenga, Christian et les autres. Et finalement, il y a plus à craindre que le processus, ça, disons, puisse s'étirer en longueur, qu'on n'aille pas les élections en 2023, à cause de l'appartenance même des confessions religieuses dans la vie politique. C'est comme si ce n'est vraiment pas la société civile.
Je voudrais vraiment profiter de ce micro pour inviter tous les acteurs politiques et ceux de la société civile, donc les chefs des confessions religieuses, de mettre de l'onde à leur vin pour trouver un climat qui nous permet d'aller aux élections apaisées. Parce que nous savons, quand nous avons le camembert des cycles électoraux, nous connaissons les différentes étapes où les violences interviennent. Là, nous sommes au niveau de la mise en place de la CENI, c'est un moment important. Mais ça ne sera pas fini. Si déjà on ne s'accorde pas au départ, nous pouvons déjà imaginer que la suite sera chaotique. Et je ne pense pas que notre pays a besoin de ça. Et nous avons beaucoup souffert, l'insécurité est encore là à l'Est, et nous espérons qu'elle va finir. Et donc, en tout cas, c'est un appel que nous lançons pour que nous puissions y aller. Maître Wenga venait de le dire, et je le confirme, le problème ce ne sont pas les textes, c'est un problème d'hommes. La loi organique de la CENI a été modifiée 4 fois. En 2006, je vous ai dit, on était à 21. On a modifié en 2010... pour avoir 7 membres, sans bureau et sans plénière plutôt. Majorité, opposition, il n'y avait pas la société civile. En 2013, on a modifié. Cette fois-ci, on a rajouté et la société civile, 3 membres, et la plénière. 6 pour la majorité, 4 pour l'opposition et 3 pour la société civile.
Donc tout ça en tirant les leçons du passé.
On espérait qu'on a tiré les leçons, mais aujourd'hui, je suis en train de suivre les auditeurs de Radio Okapi.
On se rend compte que finalement,
ils disent que les élections de 2018 étaient chaotiques. On vient encore une fois de modifier la loi. 15 membres, 6 majorités, 5 sociétés civiles et 4 oppositions. Maintenant, là, on est encore au niveau de la case de départ. Je pense que nous devrions, en tout cas, tout faire pour que les textes que nous-mêmes nous adoptons, nous puissions les respecter. Si on les fait, en tout cas, je pense que ça va nous éviter tout ce que nous
Alors, la suite, aujourd'hui, c'est vrai, il y a des PV qui sont cités, qui ont été transmis, et on ne sait pas par qui, et ces PV seront examinés, à huis clos d'ailleurs, selon les informations que nous avions. Si jamais le Parlement décidait à couper la poire en deux, enfin, sur les deux candidats où il désignait un comme président de la CENI, est-ce que cela sera légal?
Je reviens encore une fois, Maître Wenga l'a dit, ils vont certainement examiner le PV qui a été transmis s'il est conforme aux dispositions de l'article 17 de la charte des confessions religieuses. Si ce PV-là est conforme, ils vont décider. Donc j'imagine qu'ils ont, en tout cas des juristes, il y en a certainement là-bas, et ils vont décider en connaissance des causes.
Dans les cas contraires, ce sera illégal.
En tout cas,
si ce n'est pas conforme à la charte.
Exactement. Donc, on n'a pas intérêt à violer nos propres textes, les textes de la République, et pour ce qui est des confessions religieuses, ils ont aussi leurs textes. Donc, si on s'en tient au texte, il y a lieu, en tout cas, de trouver la meilleure solution qui met tout le monde d'accord.
Voilà, on va écouter Edmond qui nous a rejoint également. Edmond, Maître Edmond, je crois que la ligne s'est améliorée. Maître Edmond, vous êtes avec nous?
Oui, bonjour, monsieur.
Alors, maintenant, vous avez suivi les uns les autres, et ainsi qu'un autre invité, Dieudonné Mirimont, ancien rapporteur de la CENI. Et quelle est votre réaction ou votre contribution à ce niveau du débat?
Bon, ma contribution à ce niveau du débat, c'est situé dans le point que nous aimerions que les confessions religieuses puissent quand même nous fournir un bon donc, candidat qui répond aux critères, parce que vous allez voir que si nous constatons les différents tiraillements qui se font au niveau de confession religieuse, c'est parce que les chefs ecclésiastiques, ceux qui nous représentent là-bas, parce que nous tous, nous sommes des chrétiens, bien sûr, ceux qui nous représentent là-bas, chacun souhaite imposer un candidat. Soit c'est un candidat de, de sa province, soit c'est un candidat de son église et qu'on soit, alors que il est question, comme le prévoit les statuts ou la carte, de présenter les candidats et que le processus de candidature soit examiné comme on l'a toujours fait, que le candidat le meilleur, celui qui répondra au profil parfait, celui-là soit choisi et celui-là soit validé. Et ce que nous constatons est que il y a déjà certaines craintes, il y a même une certaine haine tribale, parce que lorsqu'on dit être président de la CENI, on n'a pas dit que non, il faut pas être de telle province, province du chef de l'État, province de M. Mbokolo et consorts. Non, on n'a pas dit ça, on a dit il faut être un Congolais, on a donné les profils. Et ces profils, c'est chaque candidat qui doit venir les imprimer, c'est-à-dire que le prouver devant les confessions religieuses. Et ça tombe aujourd'hui qu'il y a un candidat qui est meilleur plus que tout le monde, et qui est des mêmes provinces que le chef de l'État. Moi, je pense que ça ne pose pas un problème, et c'est là même le nœud du problème. C'est là le nœud du problème. Moi, je pense que c'est le candidat qui répondra, c'est le candidat qui sera impartial, c'est le candidat qui va quand même nous organiser des bonnes élections en 2023, c'est celui-là que nous avons besoin. Nous n'avons pas besoin de tiraillement des confessions religieuses. Ça n'a pas de sens et ça ne donne pas une bonne image. L'église, c'est le lieu où règne la stabilité et la paix. Et lorsqu'il y a des tiraillements comme ça, ça ne donne pas une bonne image pour les confessions religieuses de notre pays.
Merci beaucoup Edmond. Alors on va prendre Benjamin qui est avec Sangani. Benjamin, bonjour, on va terminer avec vous avant de clore cette émission avec notre invité. Benjamin.
Oui, bonjour.
Vous avez la parole, quelle est votre contribution?
Oui, merci de Radio Capi de m'avoir posé la parole. À mon humble avis, par rapport au profil du président de la CENI, j'ose croire que le prochain président de la CENI soit une personne irréprochable et ne soit pas une personne attachée à une vie politique, car son impartialité permettra que les élections soient crédibles. Vous savez bien que les années passées, nous avions vécu cela. Un président de la CENI qui n'est pas impartial, qui a une vie politique attachée, et sera toujours, sa partialité sera toujours en faveur de la personne
qui l'a nommé.
Et se cache. Alors, en conclusion, je dirais que nous voulons une personne impartiale et irréprochable.
Ben, je pense que vous ne cherchez pas un saint sur la terre, hein, ou bien un ange sur la terre, j'imagine. Parce que bon, l'homme est faillible, l'homme n'est pas parfait, en tout cas à 100%, ce que j'imagine. Ben merci beaucoup. Alors bonne chance à ceux qui vont examiner ces PV au niveau du Parlement, et la commission qui sera mise en place. Alors entre temps, nous, on va quand même conclure cette émission avec un des experts sur les questions électorales, Dieudonné Mirimo, qui nous avait honoré de sa présence dans ces studios. Alors Monsieur Dieudonné, qu'est-ce qu'on peut retenir? La suite risque d'être chaotique si jamais personne, chacun des deux camps ne mettait pas l'eau dans leur vin, que ce soit au niveau des confessions religieuses et les politiques qui vont décider de partir de la désignation des camps. Ils doivent s'occuper de leur quota. Parce qu'il y a l'opposition qui propose, d'ailleurs l'opposition a refusé, hein, et une partie de la MOUCA a refusé de désigner un membre, ne s'estimant pas vraiment légal pour faire ça. Alors en conclusion, qu'est-ce qu'on peut retenir?
Je reste convaincu qu'il y aura un sursaut d'orgueil, parce qu'à chaque fois, dans l'histoire de notre pays, les acteurs politiques ont eu à trouver des solutions lorsque on traversait des moments difficiles. Et je pense que ça sera le cas. Il y a de la sagesse et de l'intelligence parmi ces hommes, que ce soit au niveau des confessions religieuses et au niveau des élus, ils vont pouvoir donc mettre de l'eau dans leur vin et nous aider à aller de l'avant, et donc en organisant de très bonnes élections avec une équipe qui mettra tout le monde d'accord. Mais je voudrais, avant de terminer, dire qu'on fait une fiction sur le président de la CENI. Non,
mais il n'est pas le seul.
La CENI, c'est 15 membres. J'espère qu'on aura la même rigueur pour désigner les 14 autres, afin qu'on ait une équipe
qui vit dans une cohésion.
Une cohésion. Et je rappelle ici que les décisions sont prises par la plénière, pas par le président. Donc ce sont les 15. S'ils ont tous les mêmes valeurs.
Ce n'est pas Nanga qui a nommé les députés, la plénière.
Non. Ce sont les 15 membres. S'ils ont les mêmes valeurs qu'on a indiquées ici, intégrité, moralité, honnêteté, qui doivent
donner le pays.
Surtout l'indépendance.
Exactement.
Avoir aussi l'indépendance financière.
Indépendance d'esprit. Non, 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 pas financière parce que le budget vient du gouvernement.
Tout à fait.
Indépendance d'esprit vis-à-vis de toutes les forces.
Les influences politiques.
Exactement. Ouais. C'est ce qui est très important et c'est sur ça que nous devrions insister.
Dieudonné Mirimo, ancien rapporteur de la CENI et actuellement secrétaire général à l'école de formation électorale en Afrique centrale. Merci d'avoir été des nôtres et surtout de nous avoir accordé de votre temps pour passer ces 57 minutes interactives avec les auditeurs ici au pays et à l'étranger. À très bientôt, peut-être dans un autre numéro de Paroles aux auditeurs, encore avec vous. Merci. Voilà, c'est par ici que nous mettons un terme à cette émission. Merci à toute l'équipe qui a concouru à la production et à la réalisation de ce programme. On se retrouve demain dans un autre numéro de Paroles aux auditeurs. D'ici là, portez-vous bien et bonne suite des programmes sur la fréquence de la paix.